Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Zoé. Hello tout le monde et bienvenue dans mon podcast. Comme vous le savez, ici, je veux mettre en lumière des carrières, des métiers, des péripéties qui touchent de près ou de loin au monde du travail. Et aujourd'hui, je vais accueillir Jules, qui avait un avenir tout tracé dans le sport de haut niveau et qui a vu sa vie prendre un tout autre tournant en l'espace de quelques secondes. Il a subi un lourd accident de la route, les médecins lui ont annoncé qu'il pourrait plus jamais marcher et donc qu'il allait devoir abandonner son rêve professionnel. Mais il s'est pas laissé abattre et il a su se réinventer, vous allez voir. Donc bienvenue Jules dans ce podcast.
Bonjour, merci.
Est-ce que tu...
C'était pas ça que...
Non, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es?
Yes, donc moi c'est Jules. Actuellement, je suis directeur associé d'un gros restaurant sur Bordeaux. Mais comme tu l'as dit, c'était pas de base ma destinée. Et je devais effectivement faire du judo. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on m'a fait grandir avec cette idée-là. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 4 ans.
Okay, ah oui,
donc c'était au baby judo. Pour l'anecdote, c'est la maîtresse d'école qui a dit à ma mère, il faut trouver une solution, il est trop perturbé cet enfant, il faut le canaliser. Et donc, elle m'a mis à l'éveil musical, ça n'a pas forcément marché. Donc après, je me suis retrouvé au judo. Rapidement, sur les coups de 10-12 ans, les entraîneurs, ils commençaient à dire à mes parents, il a quand même un truc ce gamin, il fait pas que du judo, il ressent le truc, il est tenace, il est pugnace, faut peut-être aller un peu plus loin. Mes parents, à cet âge-là, ils ont dit, bon, à 10-12 ans, peut-être un peu jeune pour enquiller une carrière. Et puis, tu commences les petits interclubs, ces petites compétitions entre les clubs du même village, tout ça, machin. Et ça marchait pas trop mal. Et puis, en fait, à 13 ans, on m'a dit, non, c'est sûr, faut que tu fasses du judo.
Ah ouais, à 13 ans, c'est hyper tôt.
Ouais. Et on m'a dit dans un an, donc quand tu auras 14 ans, fin de 4e, donc début de 3e, il faudra que tu partes au Pôle Espoir à Nice. Donc, j'étais dans un petit village du Haut-Var. On m'a dit, oh, c'est quoi cette histoire? Et donc là, je me suis mis à fond dans le judo à 13 ans avec cet objectif-là.
Oui.
Pendant une année, ça a été assez compliqué. On a dû faire des allers-retours sur le Pôle Espoir pour s'entraîner et tout ça. Et puis, je suis rentré au Pôle Espoir de Nice à 14 ans. Donc, j'ai fait ma 3e et ma 2e là-bas.
Et du coup, t'étais plus avec ta famille?
Ah non, là, je suis parti en internat. Ah ouais. Okay. Bah, en fait, Nice, c'est à 2h, 2h30 de là où vivaient mes parents. Okay. Donc ouais, effectivement, j'étais tout seul à l'internat. Et puis, là commence un tout autre penchant du judo. Quoi. Tu le vois plus en loisir, tu le vois vraiment en mode compétition.
C'est là que t'as réalisé que c'était vraiment... Ça pouvait être ton métier plus tard, quoi.
C'est ça. Bah, métier, non. Là, tu le vis, quoi. Okay. Tu le vis et tu te dis pas, tiens, je vais gagner ma vie avec ça. Tu te dis, je m'entraîne pour faire des médailles. Voilà, et en fait, tu vas plus au judo pour t'amuser, tu vas au judo pour gagner une médaille le week-end d'après, dans 6 mois, avec des échéances, avec les championnats de France, avec l'objectif de rentrer en équipe de France, et de passer le step d'après, qui était le Pôle France.
Okay.
Faut savoir que des pôles sports, il y en a 22 en France, des pôles France, il y en a 4. Donc la sélection, c'est pas la même.
Okay.
Et puis, ça se passe plutôt bien, je commence à faire des belles médailles, et donc je passe le step d'après, qui est le Pôle France. Donc là, de Nice, je pars à Marseille, toujours en internat. Donc là, tu fais ta première et ta terminale à Marseille, au judo. Plus au judo qu'on dit sport-études, mais pour mon cas, c'était plus sport qu'études. Parce que quand t'es gamin, tu te dis, bon, bah vas-y, moi, il n'y a que ça qui compte. Ouais. Les études, on verra bien.
Ouais, c'était ta passion, en vrai.
Tu ne vis que pour ça. Mm. Tu te lèves le matin à 5h du matin, tu fais ton premier entraînement. À 7h30, tu vas à l'internat manger. Puis à 8h30, t'es en cours avec tout le monde. Mais des gens lambda aussi, quoi. Donc eux, ils viennent de se lever, tranquille.
Ouais.
Et puis à 13h... tu vas te réentraîner, et à 15h, tu reprends les cours. Alors souvent, quand c'était l'histoire géo l'après-midi, je peux te dire que j'ai pas suivi beaucoup les cours.
Il n'y a pas eu trop d'histoire géo.
Voilà, et puis à 19h, tu renquilles sur un entraînement. Ça, c'est le rythme du Pôle France.
3 entraînements par jour.
Ouais, ça, c'est le rythme du Pôle France du lundi au jeudi.
Ah, purée.
Le vendredi, retour au club, t'as ton entraînement de club, là, c'est plus chill. Et puis après, généralement, quasiment un week-end sur deux, t'es en déplacement.
T'arrivais quand même à sortir avec tes potes et soit avoir une vie perso à côté ou...
Bah, en fait, tes potes, c'est le judo, ta vie perso, c'est le judo. Tu n'as que ça. C'est-à-dire que moi, tant que j'ai fait du judo, je connaissais que ça. Et je... moi, ça n'existait pas, le côté, tiens, on va au bar, on va au ciné... comme tous les jeunes font aujourd'hui, ou se dire, bah, tiens, on va boire une bière sur un terrasse, ou des choses comme ça, ça n'existait pas, quoi, pour moi.
Ouais, vu que t'as commencé hyper jeune, t'as connu que ça, quoi.
T'es conditionné, voilà, exactement. Et puis en plus, c'est un sport à catégorie de poids.
Okay.
Donc, qui dit sport à catégorie de poids, dit régime.
Ah
donc,
ouais.
Ça veut dire restriction alimentaire, donc dès le plus jeune âge. Hein,
ah ouais, dès 13
les 14 ans. Dès 14 ans, t'as des pesées le matin avant les compétitions. Ah ouais, non, c'est dur. Alors après... Effectivement, tu as des clubs et des entraîneurs qui t'incitent plus ou moins à faire des régimes. C'est pas très bon pour quand tu es jeune, quand tu es en pleine croissance. Mais plus tu montes, plus tu as besoin de correspondre à une catégorie de poids. Puis on te parle d'objectifs. Puis quand tu rentres au Pôle France, tu rentres pour une catégorie de poids.
Okay.
Moi, en l'occurrence, j'étais rentré en moins de 66, mais après, je faisais tellement de régimes que j'ai dû basculer en moins de 73.
Ouais, parce que si tu changes, t'es pas viré du truc, tu changes de...
Mais par contre, j'étais numéro 1 en moins de 66, j'arrive en moins de 73, je suis numéro 3.
Ah oui,
donc,
d'accord,
ok. Donc, faut refaire ta place en moins de 73 et c'est reparti pour,
okay.
pour un tour, quoi.
Ouais. Et t'as un moment où, dans ces années-là, qui t'a marqué et dans ta carrière ?
Ouais, les premières sorties à l'international, c'est fou.
T'es allé où, genre ?
C'est fou parce que tu fais l'Allemagne, tu fais l'Italie, l'Espagne, beaucoup les pays qui sont autour. Voilà, tu fais l'Autriche, il y a des gros tournois en Autriche. C'est assez sympa. Et c'est vrai que ça commence à être ouf. Et la vraie plus grosse compétition que j'ai pu faire, c'était à Villeurbanne, à l'Astrobal à Lyon. Et là, c'était une World Cup. Donc là, en fait, tu prends des mecs, ils sont champions du monde, ils sont... Et donc là, j'étais junior 1 en plus, parce que c'est par catégorie d'âge aussi.
Okay.
J'étais junior 1, donc tu peux combattre jusqu'à des mecs qui sont junior 3, donc 3 ans à cet âge-là, ça va vite.
Ah oui, donc 3 ans de plus.
Ouais, une grosse évolution physique,
ouais.
c'est clairement différent. Donc quand tu rencontres des mecs qui sont un russe, qui est champion du monde, qui a 3 ans de plus que toi,
ah,
et t'arrives dans une salle, l'Astrobal, je sais pas si tu connais, c'est là où ils font du basket.
Ok.
Donc, c'était des milliers de spectateurs. En plus, en France, donc, quand tu es dans la chambre d'appel, c'est là où tu es avec ton coach juste derrière. Tu as ton adversaire qui est devant ou derrière, en fonction de qui a été appelé en premier, en fonction du tableau. Et tu attends de rentrer dans cette salle-là. Donc, tu as la pression qui monte, tu entends le public. Là, ils vérifient si toutes tes mesures de kimono sont bonnes, tout ça, si tout est aux normes. Et tu as ton coach qui est dans ton oreille, te dit des choses.
Ah, fini, ça doit être trop stressant.
Ouais, je sais pas si c'est... Oui, c'est du stress, mais c'est surtout de l'adrénaline.
Ouais.
Ça monte. Et puis, t'arrives sur le tatami, t'as les yeux injectés de sang et c'est parti, quoi. Et tu lâches les chevaux et on annonce ton nom au micro. Enfin, c'est ouf.
Ah, c'est ouf.
Et qui m'a marqué, mais dans l'autre sens, on va dire, c'est que pendant une année, il y a une année où j'étais numéro un français toute la saison.
Incroyable.
Je survole la catégorie. Et puis, j'arrive au championnat de France et là, on m'annonce au micro, voilà, sur le tapis 1, numéro 1 français, machin, là. Et en fait, ça a été une catastrophe. J'ai perdu tous mes moyens. Et voilà, je passe à côté du championnat de France. Donc ça a été aussi dur parce que le soir, quand tu viens de faire une belle performance, effectivement, t'es content, c'est facile d'aller à l'entraînement le lundi matin. Mais quand t'as fait une contre-performance, c'est autre chose. Faut se relever, faut se remobiliser, faut trouver le mental, faut... assumer d'aller à l'internat et regarder les gens en face et de se dire « Putain, il a fait de la merde ce week-end. »
Ouais, mais bon, après, s'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut non plus, quoi.
Ouais, mais c'est dur. C'est dur parce que, je te dis, depuis que t'es tout petit, je te dis, moi, à partir de 13 ans, on m'a dit « Mais t'es trop fort. » Surtout, je venais d'un tout petit village. Donc, des mecs qui allaient en Pôle Espoir, en Pôle France, il n'y en avait pas. Et on m'a dit « Mais t'es trop fort, il y a un truc. » Et donc, putain, la première fois où tu déçois, tu fais un échec. Et c'est là où il ne faut pas tomber là-dedans, c'est de faire du sport pour les autres. Il faut le faire pour soi, le sport. Mais ça, c'est pas facile.
Oui, tu m'étonnes. Et du coup, tu t'imaginais pas ta vie autrement qu'en étant judoka. Est-ce que quand tu pensais au futur, t'avais une idée en tête ou juste t'étais vraiment en mode là, je suis focus maintenant et voilà.
Mais à partir du moment où je suis rentré au Pôle France, je me suis dit, ça va être toute ta vie. Je me suis dit, ok, là, la prochaine étape, c'est l'INSEP. La prochaine étape, c'est Paris, du coup.
Ok.
La prochaine étape, c'est de signer un gros club, c'est d'aller chercher un contrat. Alors après, attention. Dit comme ça, on a l'impression que c'est les États-Unis, mais dans le judo, il n'y a pas d'argent, donc ce n'est pas des contrats comme les footballeurs. Donc okay. C'est vraiment, ça reste la passion, quoi. Mmh. Donc tu te dis, bon, on verra comment on vivra, et puis voilà. Et donc là, tu te mets à la recherche de clubs. Donc tu as les clubs qui viennent te solliciter. Voilà, on veut te faire signer pour tant d'années, voilà ce qu'on te propose. Et puis moi, j'ai signé dans un club, qui était le 4e club français à l'époque, okay. L'Olympique Judo Nice, qui avait une succursale sur Paris, bien sûr, et qui était en partenariat avec une école de commerce. Ça, ça tenait à cœur à mon père, parce qu'il me disait, moi, je veux bien que tu fasses du sport de haut niveau, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Oui.
Fais des études.
Ok, parce que là, jusqu'ici, tu avais continué, tu avais eu ton bac et tout après.
Ouais, alors oui, j'ai eu mon bac, mais parce que j'étais sportif de haut niveau, hein, sinon.
Ok.
Ouais, c'est. En fait, c'est bizarre parce que t'es pas très bon à l'école. Enfin, t'es pas très bon à l'école. Moi, j'ai eu la chance de toujours m'en sortir. Mm. Mais on travaille pas, mais on est protégé à la fois par les entraîneurs parce que tu fais des résultats au judo. Mm. Donc, t'as des passe-droits un peu bizarres, tu vois.
Ouais.
Si tu te dis, bah, j'étais en stage toute la semaine dernière, ce contrôle-là, je vais pas le faire parce que j'ai pas pu réviser. Ah, ok, c'est pas grave.
Ah ouais, il te laisse un peu...
Voilà, c'est pareil pour le bac. Ouais, mais là, moi, la semaine du bac, j'ai un stage en Allemagne qui est prévu. Comment on fait ? Oh, bah, vous le passerez plus tard.
Ah ouais ?
Ouais, donc c'est...
Ouais, c'est trop bien.
C'est trop bien et à la fois, c'est pas bien parce que bah, les études, ça passe vraiment après, quoi.
Ouais.
Alors qu'il ne faut jamais faire passer ses études après.
Ah non, c'est... Mais ils pouvaient t'autoriser de faire, d'arriver au pôle français et tout si tu n'avais pas d'études à côté. Genre, il y en a qui ne sont pas en cours et qui sont juste là comme ça ou...
Alors, bah, de toute façon, en pôle, non, parce que tu es au lycée. Donc,
ah, c'est lié les deux.
Voilà, c'est quand même lié. Maintenant, de base, ils te disent que les critères pour rentrer, notamment pour l'espoir, il faut des critères scolaires de dingue. Mm. Donc moi, je m'étais jusqu'à ma troisième, j'étais à fond pour apprendre et tout ça. Et en fait, t'arrives là-bas et tu comprends qu'il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est la médaille que tu rapporteras au championnat de France à la fin de l'année.
Okay.
Voilà. À partir du moment où t'as compris ça, y a pas les parents derrière parce que bah t'es pas chez toi.
Ouais,
donc
oui, c'est
la
sûr.
Semaine tu rentres pas, donc d'ici à ce qu'ils apprennent que t'as pas été en cours, laisse tomber.
Ils vont pas appeler. Il n'est pas au cours d'histoire.
Mais surtout c'est qui ils appelaient. Ils appelaient l'entraîneur.
Ah ouais, en fait c'est l'entraîneur qui te prend.
Donc au pire l'entraîneur le soir, il te faisait faire des exercices et tout en plus, il te prenait dans les combats au sol un peu chaud. Et moi j'adorais ça, donc ça m'allait. Donc voilà, quand il arrivait, quand j'arrivais. T'as pas été en cours d'histoire, tu feras 10 montées de corde à la fin de l'entraînement. Ok, avec plaisir. Donc, donc forcément, ça change ta vision des études. Mais quoi qu'il en soit, voilà, mon père m'avait dit, tu montes à Paris, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu fasses des études. Donc je suis parti à Paris avec cette école de commerce en tête, en backup, mais avec effectivement l'ambition de faire du judo ma vie. J'avais donc signé un contrat avec ce club-là. C'était un contrat sur 4 ans au départ. Enfin, sur 2 puis 4, pardon, donc ça fait 6, parce que tu sais, c'est par année olympique.
Ok.
Voilà. Oui. Et donc, ouais, c'était parti pour ça, quoi, de base.
Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, quand t'es monté sur Paris ? Qu'est-ce qui...
Bah, je suis monté sur Paris, j'ai découvert déjà un autre monde, parce que moi, quand je viens de mon petit village de Varrois, quand on parle de Paris, c'est,
ouais.
C'est la capitale, quoi.
Tu vois, ça, la Tour Eiffel, ouais, c'est ça, l'Arc de Triomphe et tout, quoi.
C'est gros, quoi. Et donc, bah, tu prends ton appartement, tu prends tout ça. Donc, à 18 ans, t'es tout seul à Paris, dans ton studio, avec ton scooter. Tu dois aller à l'entraînement, tu dois aller à l'école. Enfin, voilà. Donc, franchement, j'ai adoré les malheureusement quelques mois que j'ai vécu comme ça. Voilà, là, je découvre un monde encore différent du sport de haut niveau. J'avais encore passé une étape où là, j'allais m'entraîner à l'Institut National du Judo. J'avais un coach mental. On n'était que 4. Enfin, le coach mental s'occupait que de 4 athlètes.
Okay.
Pareil pour le coach physique. Donc, c'était vraiment très personnalisé. Tu avais un coach technique également.
Ah ouais,
donc, c'était vraiment pointu. Et là, je m'étais dit, effectivement, tu vas passer un vrai cap. Quoi.
Bah,
et
oui.
C'est parti pour ce pourquoi tu te bats depuis 4 ans maintenant. Et c'est le feu. Quoi. Et puis, le 14 novembre 2014, j'oublierai jamais, je pense. Il était midi 10 à peu près. Je pars donc de l'école de commerce. Parce que l'école de commerce, ils aménageaient les cours. C'est okay. En fait, la licence, tu l'as passée en 4 ans.
Ok.
Pour pouvoir t'entraîner à côté. Et je pars de cette école de commerce-là. Je ne sais pas si tu connais un peu Paris, mais il y a la Défense, je passe sous le tunnel de Neuilly, et là, il pleuvait. Et en fait, d'un coup, je suis en train de rouler, et je sens que je perds le contrôle de mon véhicule. Je perds le contrôle de mon scooter. Je commence à glisser sur les fesses. Et là, en fait, mon pied passe dans une roue de voiture. Et là, c'est le début d'un cauchemar de ouf. Là, c'est hard parce que... Ouais, j'essaye de... Donc, il y a l'accident qui se passe, tu comprends rien, ça va trop vite, ça glisse,
et
t'as du bruit, puis il y a les bouchons, il est midi à Paris, enfin, je sais pas si t'as déjà circulé à midi à Paris, c'est chaud. Et t'entends que ça klaxonne, c'est des bruits sourds.
Ça a été long pour toi ou rapide le moment où tu tombes et tout?
Franchement, j'ai pas trop de temporalité à ce moment-là, mais j'ai l'impression d'avoir glissé pendant 3 jours.
Ah ouais?
T'as un truc de fou, j'ai l'impression que ça s'arrêtait jamais, que j'allais jamais reprendre le contrôle de la situation. Et puis, de toute façon, je l'ai pas repris. Puisque au moment où tout s'arrête, j'essaie de reprendre un peu mes esprits, je regarde autour de moi, bon, je vois des voitures, puis dans un tunnel, donc le bruit il est vraiment sourd.
Ah ouais.
Tu vois, je suis dans le tunnel.
Dans le noir un peu.
C'est... Ouais, c'est ça, t'as que la lumière jaune des éclairages du tunnel. Et là, j'essaie de me relever. Et en fait, je tombe. Je tombe parce que en fait, je pouvais plus utiliser ma jambe, quoi. Mon pied était KO. Ça, je l'avais pas encore compris. Je dis, pourquoi je tombe? Donc, j'essaie de me traîner parce qu'à un moment, t'as un espèce d'instinct de survie. T'es au milieu de la voie, quand même. Hein.
Ils continuent à rouler, les gens à côté.
Ouais, en fait, c'est une 4 voies. Et donc, tu vois que sur les 2 premières voies, tout à droite, les mecs, ils continuent comme si de rien n'était. Et tu sens que le trafic, il est un peu perturbé, mais que tu gênes plus le trafic qu'autre chose, tu vois.
Ah oui,
ils klaxonnent, ils se déportent, comme si t'étais, comme au feu rouge, c'est quand tu démarres pas, quoi. Donc, j'essaie de me traîner vers, tu sais, t'as des espèces de barrières en béton sur le côté.
Ouais, le côté, ouais.
J'essaie de me traîner vers là. Et puis là, je vois, il y a une voiture, puis des scouts qui s'arrêtent. Et là, les gens qui me disent qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'en sais rien, j'ai trop mal aux pieds. Et en fait, c'est une aide-soignante qui débarque. Et là, elle essaie de me toucher les pieds. Je dis, ouais, j'hurle. Je dis, non, faut pas. Et j'hurlais, je pleurais. Enfin, c'était assez hard. Puis ils appellent les pompiers. Les pompiers, en vrai, quand j'ai lu le rapport, ils mettent pas longtemps à arriver. Ils mettent moins de 15 minutes.
Ok.
Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient mis 2 heures pour venir. Parce que j'étais au sol, j'avais mal de dingue. Et puis surtout, tu sais que quand tu fais du sport de haut niveau, et puis surtout un sport de combat, la douleur, c'est un truc qui fait partie de ton quotidien.
Mmh, ouais, tu connais.
Des blessures, puis même la douleur physique. Enfin, le judo, c'est un sport de combat, t'as mal. Mais là, je pouvais pas la surmonter, c'était horrible. Ça me prenait tout le corps.
Ouais, donc tu te disais, là, il y a plus que juste un petit accident. Quoi.
Ouais, c'est là, pas... je me disais, il y a un truc grave quand même. Et les pompiers arrivent. Donc, pour premier diagnostic, tout ça, machin. Et quand ils arrivent, forcément, ils sécurisent le truc. Et puis, ils me disent, bon, on va regarder. Je dis, OK. Et en fait, j'avais des bottes de moto. Donc, ils montaient à mi-mollet.
Okay.
Et tu sais, c'est scratché. Et puis après, il y a une fermeture éclair. Donc, ils enlèvent le scratch. Déjà, je douille. Et puis là, quand ils commencent à vouloir enlever la fermeture éclair, j'hurle. Je leur dis, non, faut arrêter. Et puis, ils essayent de retirer la botte. Et là, j'ai cru qu'ils allaient arracher mon pied.
Mon Dieu.
Et là, je dis stop. Il me dit, monsieur, ça va aller. Et je dis, non, c'est pas possible, ça va pas aller. Je dis, c'est pas possible. Donc, ils prennent la décision de couper la botte.
Ok.
C'est une botte de moto en plus, donc ils ont bien, bien galéré. Après, je pense qu'ils ont des ciseaux exprès. Voilà. Et là, je me souviens, il y avait un jeune pompier au niveau de ma tête, j'étais allongé. Il était 3 au niveau de mon pied et il y en avait un au niveau de ma tête. Et il essayait de me parler et tout, mais je sentais que ça faisait pas longtemps qu'il était dans les pompiers. Et quand ils coupent la botte, ils enlèvent la botte, et là, je vais me relever pour voir. Et là, je vois le jeune qui fait une tête de ouf, et qui devient blanc, et qui me dit « Regardez pas ».
Oh, purée.
Bon, après, je saurai après, parce que j'ai fait des scanners et tout ça, mais en fait, j'avais les doigts de pied au niveau de la malléole. En fait, mon pied, il avait complètement tourné dans la botte de moto, et donc ça avait fait un carnage, quoi. Ça avait fait un carnage. Et donc là, ils mettent dans la barquette avec une attelle gonflable, c'est pour pas que ça bouge.
Ouais.
Et ils décident d'aller à Levallois-Perret, à l'hôpital. Et il y a beaucoup de pavés là-bas pour y aller.
Ah, donc t'as bien.
Je sentais chaque pavé dans mon pied. C'était un truc de fou. Et en fait, le mec, il me dit, le pompier, il me dit, non, je lui dis, donnez-moi quelque chose pour soulager la douleur. Mmh. Il me dit, non, on peut pas, on n'est pas médecin. Là, on a 2 choix. C'est soit dans un quart d'heure, on est à l'hosto, soit le SAMU arrive dans 15 minutes et là, ils pourront vous soulager. Je dis, vas-y, on part.
Ok.
Et donc, on est parti. J'arrive à l'Institut franco-britannique à Levallois. Et là, je me souviens, j'arrive, t'as une armée de médecins qui débarquent. J'ai cru que j'étais en train de crever, alors que bon, c'était entre guillemets juste un pied. Mais en réalité, j'apprendrai après aussi que le temps était compté à ce moment-là.
Ok.
Parce que j'avais un nerf qui a été touché, donc forcément.
Ils l'avaient vu, ça, les pompiers?
Non, mais okay. ils avaient compris qu'il y avait un truc grave, quand même.
Ok.
Et donc là, tu sais, ils te posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je pouvais pas leur répondre, j'avais trop mal. C'est vraiment, ça me... Ah, est-ce que vous avez beaucoup mal? Bien sûr, j'ai mal. De 1 à 10, ils te font le truc, l'échelle. J'ai mal à 11, quoi. Un truc de dingue.
Ah ouais.
Et, Et voilà, et puis après, je me souviens, ça va hyper vite. En fait, je fais le scanner direct, j'étais sur le brancard. Il coupe mon jean au niveau du... Sur le scanner, il coupe mon jean, il coupe toutes mes fringues, il met à voile comme ça, à poil. Et il met une blouse. Et là, je pars au bloc. Et je vois le, l'anesthésiste qui me dit 1, 2, 3.
Et là, t'as plus de... Voilà.
Et là, plus rien.
Et tu te réveilles combien de temps après ?
Plus de souvenirs. Alors, je me réveille, je sais pas combien de temps je me réveille après, mais l'opération a duré 5 heures.
Ah ouais, punaise. Mmh.
Donc, une anesthésie générale de 5 heures, tu galères. Le premier souvenir que, dont je me souviens, c'est que je suis dans une espèce de hall avec plein de lits. Et j'essaie de me réveiller comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Non, non, restez tranquille » et pff, je repars.
Okay.
Et j'ai 2-3 fois ces images-là dans la tête. Et puis après, je me souviens vraiment, donc là, j'étais en salle de réveil, en fait, et je me souviens vraiment d'un moment où je me réveille dans une chambre, en fait. Et là, là, je prends tout dans la tronche, là.
Ah ouais.
Ouais, parce que je me réveille, je dis « Waouh, je suis où ? Je suis un peu dans le gaz encore. Je suis où ? Tout est blanc. » Et tu sais, la dernière vraie image que t'as en termes de conscience, t'es sur ton scooter.
Ouais, oui, bah.
Parce qu'après, la douleur, je pense qu'elle fait un truc chimique dans ton cerveau qui fait que tu réfléchis pas pareil.
Mais tu devais rien comprendre.
Et là, je comprends rien. Je comprends rien. Et je regarde un peu partout. Et en fait, t'as une espèce de table de chevet sur la droite du lit. Et là, je vois, tu sais, une feuille de cours, une copie double. Et je vois un mot. Et en fait, c'était ma mère qui m'avait dit, parce qu'elle était en région parisienne, ma mère.
Ok.
Et c'était ma mère qui me disait que, bah voilà, elle arriverait dès qu'on la prévenait, qu'elle savait que j'étais là et tout ça, machin. Mais je le lis sans lire. J'étais tellement dans le gaz. Puis je me rendors. Et puis je sais pas combien de temps après, on me réveille. Et là, il y a un monsieur qui arrive dans la chambre. Et tu sais, il vient, mais j'ai vraiment cette image-là. Il vient avec. C'est comme dans Doctor House, là, ils ont les plaquettes.
Ouais, la chemise, les plaquettes, ouais, c'est ce ça. Truc.
Et il arrive et je me souviens. Et là, il me dit, voilà, on a fait une ostéosynthèse pendant 4h30, 5h. Machin. Il me parle de trucs, je comprends rien. Et il me dit, par contre, monsieur, voilà, on va pas vous cacher, l'opération, elle était grave, l'accident est grave, l'opération est lourde. Il y a peut-être moyen que vous ne remarcherez plus, quoi, il me dit. Et là, je me mets à crier, à pleurer. Et je lui dis, non, mais vous dites n'importe quoi. C'est pas possible, en fait, t'as pas compris. Je suis sportif de haut niveau, quoi.
Ouais.
J'ai pas mon pied, j'ai plus de carrière, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Je ne vis que pour ça. C'est mon outil de travail, quoi, en gros.
Bah oui, c'est ça.
Et je lui dis, vas-y, sors de la pièce et allez chercher un médecin. Et là, le gars, il s'en va. Et puis, il y a un mec qui rentre dans la pièce. Beaucoup plus sympa, avec une blouse blanche, machin, sans papier, sans rien. Et il arrive, il se pose à côté du lit. Et je suis le chirurgien qui vous a opéré. Donc j'ai fait un puzzle, en fait, avec votre pied, parce que quand vous êtes arrivé, votre pied, il était en miettes, complet. Donc j'ai dû tout ouvrir. J'ai quand même eu 37 points de suture sur la cheville, c'est beaucoup.
Ah oui.
Et j'ai dû tout ouvrir et j'ai tout reconstruit. Il dit, voilà, par contre, il y a des os... Les bords étaient trop petits, j'ai pas pu les consolider. Et puis, il y a un problème, c'est qu'il y a le nerf tibial, donc le nerf qui passe derrière la malléole, au niveau du talon, on va dire, qui a été atteint. Il dit, j'ai fait ce que je pouvais, mais honnêtement, je sais pas si un jour vous remarcherez, et si vous remarchez, dans quelles conditions. Et là, prends une douche froide.
Ouais, t'as compris, vraiment. T'as assimilé direct ce qu'il disait, ou t'avais l'impression d'avoir bloqué
Je pense que je comprenais sans vouloir le comprendre quand même.
Mmh.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu l'entends, tu dis ouais, c'est chaud, mais en réalité, c'est pas possible.
Ouais, oui, tu dis c'est.
Qu'est-ce qu'il me raconte, quoi.
Mmh.
Et là, je suis resté bloqué un petit moment sur le fait que. Je suis judoka, en fait, de quoi vous me parlez, quoi. C'est... Là, il faut y aller, centre de rééducation, on y va. Il y a les championnats de France, il y a les Europes à préparer, on y va, quoi. C'est la saison, quoi, on y va.
Oui.
Et là, en fait, ils essaient de me faire comprendre et me faire redescendre. Qu'effectivement, judo, il faut que je fasse une croix dessus parce qu'il y a plus important à s'occuper, c'est récupérer la marche, potentiellement. Sauf que derrière, on me parle de prothèse. Là, tu commences à te mettre, donc tu as 18 ans et demi, et on te met un livre où il faut choisir ta type de prothèse. Ça fait bizarre.
Bah, oui.
Ça fait vraiment froid dans le dos.
Bah, oui. Oui, tu m'étonnes.
C'est dingue. Puis c'est long, l'hôpital, à ce moment-là.
Ouais, tu restes combien de temps à l'hôpital ?
10 jours.
Ah oui, donc quand même...
10 jours, dont 5 en... Alors, c'est pas les soins intensifs, parce que niveau organes vitaux, ça allait, mais c'est des services où t'es ultra surveillé. Parce que j'avais des gros pansements, parce que j'avais un drain également.
Ok.
Je pouvais plus bouger, donc... Enfin, t'as des poches, je te passe les détails, mais je pouvais pas me lever, rien. Et là, c'était long, parce que bah, tu mets tout en doute. Alors, il y a ma mère, il y a des amis qui sont venus aussi, ça, c'était bien. Le président du club de judo qui est venu me voir.
Ah ouais. Oh.
Tout ça, c'était bien, mais à ce moment-là, je m'en foutais de tout.
Ouais.
Je me disais, mais ma vie, elle est en l'air. Elle est en l'air, ma vie. Puis je faisais des examens tous les jours, c'était long. Et en fait, il n'y avait aucune réaction nerveuse. C'est-à-dire, tu sais, ils font des... Je crois que c'est des électromyogrammes, ça s'appelle. Ils t'envoient des pulsions électriques pour voir si ton nerf y réagit.
Mmh.
Et moi, j'avais aucune réaction. Et donc, ils me disaient, là, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Et bon, les examens continuent, tout ça. Et puis, ils me disent, bon, bah, on va vous faire sortir de l'hôpital. Et donc là, en fait, c'est une ambulance qui vient me chercher. Et en fait, au lieu d'aller dans mon studio, je vais chez ma mère.
Ah oui.
Mais tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, ta vie, elle sera plus jamais pareille, quoi.
Ouais. Là, t'as vraiment réalisé que...
Ouais.
Ouais.
Et t'es dans un espèce de truc intemporel. Tu sais, tu flottes.
Mm.
Tu te dis, mais attends, je vais plus en cours, je vais plus au judo, je peux plus marcher. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je vais rentrer et il va se passer quoi ?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et puis, bah, t'enchaînes les rendez-vous. Et là, on voit que le nerf, il réagit toujours pas au bout de plusieurs semaines. Et là, on me dit, il va falloir que tu ailles voir ce spécialiste-là, parce qu'il n'y a que lui qui pourra opérer le nerf. Okay. En gros, les opérations du nerf dont j'avais besoin, en fait, on pensait que le nerf était sectionné.
OK.
Et donc, si le nerf était sectionné, il y a des chirurgies réparatrices des nerfs qui existent, mais ils sont, je crois, à peu près 4 en France à pouvoir le faire.
OK.
Voilà. C'est chaud. Mmh. Et donc, ce gars-là. Et donc, je vais le voir, et effectivement, il me dit, ouais, il va falloir faire un truc. Il dit, après, je ne garantis pas que ça marche. Dit, je le fais, maintenant, après, les terminaisons nerveuses, c'est soit... Nous, on va les reconnecter entre elles, mais il faut que ça repasse dedans, quoi.
Oui, après, c'est ton corps, quoi.
Exactement. Et puis, on fait les examens, on commence à préparer l'opération. Et ce qui est fou, c'est que j'ai un rendez-vous le 24 décembre, un truc improbable, avec lui.
OK.
Et la souffrance de la main, il est vers Trocadéro. Et le mec, il me dit, il y a un truc bizarre sur l'électromyogramme. C'est-à-dire, il dit, bah, j'ai du résultat. Alors qu'on était à zéro depuis le début. Et là, il me dit, on en refait un. On en refait un, encore plus poussé. Et là, effectivement, en fait, il y a de l'électricité qui passe.
Ah, oh, punaise, trop bien.
Et donc, il me dit, bah, en fait, non, c'est bon, on annule l'opération, je ne vous revois plus, il faut laisser le temps. Maintenant, pendant 4 mois, vous êtes en fauteuil.
Ah, mais toi, c'était quand même une bonne nouvelle
et
pour
là,
toi.
Et là, c'était un truc de fou. Bah, je me suis dit, mais c'est bon, c'est reparti, en fait. J'ai recommencé un peu à y croire, tu vois.
Ça t'a redonné de l'espoir.
Puis après, il y a eu les fêtes. Donc là, les fêtes, un peu, tout s'arrête. Et en janvier, bah, je suis rentré au centre de rééducation.
Ok. Et c'était quoi, là-bas, ton quotidien ?
Et là, le centre de rééducation, ça dure 6 mois. Et là, bah, le matin, l'ambulance, elle vient te chercher. T'arrives, ils te font des... Tu sais, au début, en fait, ils remettent un peu les os en place, le kiné. Tu vois, c'est des kinés. Ils remettent les os en place. Puis après, tu fais des exercices pour stimuler, pour... Voilà, en fait, au début, ça a duré... Pendant 4 mois, j'étais allongé et c'est eux qui faisaient. Moi, je pouvais rien faire. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas prendre appui sur mes jambes, je pouvais rien faire. Donc vraiment, c'était ça, le truc. Et puis, au bout de 4 mois, en fait, là, tu commences à faire des exercices, donc dans les piscines, dans les machins, où là, tu commences à te lever et tout ça. Mais quand je suis rentré au centre de rééducation, l'objectif, c'était pas de remarcher, hein. Moi, quand j'ai vu le médecin à l'entrée du centre d'éducation, il m'a dit « Honnêtement, monsieur, je ne sais même pas si vous remarcherez. On va juste faire en sorte que vous retrouviez des sensations, des machins, des trucs, mais si vous remarchez, de toute façon, ce sera avec boiterie.
»
Je dis « Non, non, tu n'as pas compris. Moi, quand je ressortirai de ce centre de rééducation-là, je remarcherai comme avant. Et même, je veux courir. » Et en fait, c'est tout au long, j'avais ça en tête. Mon kiné, c'était vraiment un bon. Et on a fait en sorte que j'arrive à remarcher, quoi. Et on a réussi.
Au bout de combien de temps ?
Bah, je te dis, la première fois qu'il m'a dit « lève-toi », c'était dans une piscine et j'avais des barres. Donc déjà, dans des piscines, ton poids, t'es plus léger. Et j'avais des barres pour tenir. Au bout de 4 mois, et j'arrivais pas à avancer.
Okay.
En fait, ce qui m'expliquait aussi, c'est que bah, t'as les lésions et compagnie, mais t'as surtout ton cerveau qui sait plus donner l'information à ton pied, marche.
Ok.
En fait, faut réapprendre à marcher.
Ah
ouais. Et là, tu reprends une claque, tu dis, mais attends, je comprends pas. J'ai jamais appris à marcher. Tu te souviens pas d'avoir appris à marcher, parce que c'était quand t'étais petit. Et là, je me suis dit, bah, faut recommencer un truc de dingue. Et là, tu réapprends à ton cerveau à dire à ton pied, avance. Et là, c'est long.
Ah ouais.
Et là, c'est long. C'est long, et puis le centre de rééducation, c'est horrible en vrai.
Ouais, tu m'étonnes.
C'est horrible parce que déjà, t'as les odeurs d'hôpitaux partout. Parce qu'en fait, c'est un immense hôpital, hein, finalement. Et puis, t'as des gens qui n'ont pas de jambes, des gens qui ont été brûlés. Il y avait le bâtiment des grands brûlés juste en face de là où je mangeais. Et tu vois des gens momifiés sortir et tout. Enfin, c'est.
Ouais, tu.
Franchement, c'est chaud. Tu vois des trucs que tu pensais jamais voir.
Ouais, c'est ça.
Un jour, je discute. À la muscu, parce qu'on faisait de la muscu et tout ça. Moi, effectivement, je faisais que de la muscu des jambes, parce que du coup, j'avais une jambe toute fine.
Ah mais oui, j'avoue.
Ah, les muscles étaient atrophiés et tout. J'avais une jambe, c'était un mikado, quoi. Et à la muscu, une fois, j'étais avec un mec, et un mec hyper nerveux et tout ça, et lui, il faisait du développé couché, et il pouvait parler à personne. Et un jour, je sais pas, il doit charger trop sa barre ou je sais pas quoi, et il se retrouve coincé comme ça.
Okay.
Et il m'appelle, et donc je l'aide. Et c'est assez cocasse quand t'as un mec qui n'arrive pas à marcher et un autre qui malheureusement est amputé d'une jambe, qui est bloqué, qui cède pour essayer de sortir le truc. C'est assez marrant. Et là, on discute, du coup, on va manger ensemble. Et puis, il me raconte, en fait, c'est un ancien pompier. Il était en bagnole, il était en voiture avec sa femme. Et en fait, il y a un motard qui est arrivé beaucoup trop vite, qui a été alcoolisé, qui a coupé le virage, qui est rentré dans sa voiture. Et lui, il s'est réveillé. Enfin, quand il a repris ses esprits, il avait la roue avant de la moto au niveau de son épaule. Donc, il est vraiment rentré dans la voiture. Sa femme était morte sur le coup et lui, il a perdu l'usage de ses jambes.
Oh, putain.
Et en fait, tu réalises des trucs, tu te dis, waouh, c'est dingue. Et moi, je me disais, mais attends, tu pleurais parce que tu voulais plus faire du judo, tu pouvais plus faire du judo et tout. Mais lui, il a vraiment tout perdu. Tu réalises la chance que t'as quand même à ce moment-là.
Ouais, tu t'es dit quand même.
Je dis, en vrai, c'est rien.
Tu relativises un peu quand même.
Exactement. D'un truc, tu disais, mais ma vie, elle est finie. Tu dis, en fait, c'est rien. Et là, tu dis, en fait, tout est question de...
De point de vue.
De relativité, et de... Ouais, exactement.
Et du coup, ouais, ça a passé 6 mois en tout, ça a tout changé chez toi, ta manière de voir les choses. De...
Ouais, clairement, ouais, parce que, comme je te disais, au début, j'étais égocentré. C'est-à-dire qu'un sportif de niveau, il doit l'être. Un champion, il n'y en a qu'un, surtout dans un sport individuel. Donc, t'es le seul capable de faire quelque chose de bien, de réfléchir correctement, t'es le meilleur, quoi. Et en fait, quand t'arrives là, tu te dis, mais qui que tu sois, parce que j'ai rencontré ce pompier, une caissière qui avait une sciatique tellement grosse qu'elle pouvait même plus porter son enfant et tout, un chef d'entreprise qui était tombé de sa haie avec son coupe et qui avait perdu un doigt, tu vois, et qui a pas mal d'argent. Donc, tu te dis, en fait, qui que tu sois, ou un champion de judo, on se retrouve tous ici, à galérer, à manger la même chose le midi, à souffrir, à être triste, à être heureux en même temps, pour les mêmes choses. Une petite avancée qui, dans le quotidien, t'aurais pas eu rien du tout, bah aujourd'hui, t'en es super content. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça le vrai monde. C'est comme tu me disais tout à l'heure, tu me disais, mais du coup, avec tes potes, tout ça, je connaissais pas l'autre monde.
Oui.
Moi, je connaissais que le monde judo. Ma bulle judo. Et là, en fait, ma bulle judo, elle avait été percée et je découvre autre chose. Et ouais, ça a tout changé, ma manière de voir les choses, de voir la vie, de voir les autres aussi. Et puis là, heureusement que mon père m'avait dit de faire des études quand même.
Ouais, du coup, ça a été comment lui après ? Parce que là, t'as remarché du coup normalement en sortant ?
Alors non, après j'étais sur béquille pendant 6 mois facile après derrière.
Ok, ah oui, d'accord. Ok.
Béquille, ça a duré 6 mois, je crois.
Et comment, quand les médecins, ils ont vu que t'avais réussi à marcher alors que le mec, il t'avait dit « Non, vous ne réussirez jamais » et tout. Alors, comment ils ont réagi ? Ils étaient choqués ?
Le médecin du kiné, enfin du centre, j'ai jamais voulu leur parler parce qu'on s'est embrouillé, donc c'était fini. Par contre, mon chirurgien, il était choqué.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Et en fait, on a carrément fait un cas d'étude.
Ok.
Il a été le présenter dans des séminaires et tout ça parce qu'en réalité, bon, c'est un peu technique, mais j'avais le talus et la malléole, c'est deux os. Donc la malléole, on la connaît, c'est la boule qui est sur la cheville. Mmh. Mais le talus, en fait, c'est une espèce de feuille qui est entre la jambe et le pied.
Ok.
Et les accidents du talus, quand ça arrive, généralement chez les sportifs, genre football et tout ça, il y a une boiterie forcément. Dans 99% des cas, il y a une boiterie après la rééducation. Et ne serait-ce que d'avoir un accident du talus, c'est-à-dire moi j'avais le talus complètement émietté, c'est lui qui l'a pu reconstituer qu'à 60%, donc okay. Il me manque du talus en plus. Le fait d'avoir réussi à reconstituer le talus, qu'il en manque et que je marche sans boiter, ça c'était un cas clinique.
C'est lié à ça, tu penses qu'il en manque, que du coup tu boites pas?
Bah non, pas, parce qu'à un moment donné on avait même parlé de faire une greffe osseuse.
Ok.
Donc il voulait vraiment le reconstituer. Sauf que vu que ça se passe bien, il a dit, écoute, je ne vais pas réouvrir.
Ouais,
comme
reste.
Ça se passe bien. Le mieux est l'ennemi du bien, tu vois.
Ouais, donc, c'est sûr.
Donc voilà. Et donc non, ça a été un cas clinique. J'ai été beaucoup suivi. Pendant 3 ans, j'avais des rendez-vous réguliers, hein, quasiment. Alors au début, c'était la première année, c'était tous les 2 mois que je le voyais, avec des examens. Après, ça a été tous les 4 mois. Et pendant très longtemps, après, ça a été tous les 6 mois.
OK.
Voilà. Donc 1 à 2 fois par an, je voyais mon chirurgien. Et il m'a même accompagné, alors accompagné oui et non, parce que j'avais une contre-indication médicale, mais j'avais préparé le marathon de Paris.
Ok, voilà. C'est fou.
Alors que j'ai pas pu courir malheureusement à cause du Covid.
Ouais.
Parce qu'il a été annulé un mois avant, comme le semi-marathon qui a été annulé la veille d'ailleurs. Mais je l'ai préparé et dans mes entraînements, le semi-marathon, je le courais en 1h45, quoi. 1h40.
C'est fou. Donc,
je courais vite en plus.
Mais comment les médecins, ils expliquent ça, même toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Comment est-ce que ton corps a repris comme ça la force, quoi?
Le chirurgien, il me dit, c'est parce que j'ai été très bon, forcément. Et il a raison, en réalité. Oui. Il a été très bon. Et puis, je pense que déjà, il y a une composition chimique de mon corps qui fait que, comme j'étais, entre guillemets, prédéfini pour faire du judo, je pense que j'avais des dispositions physiques qui ont fait que j'étais un peu plus fort sur certains aspects que d'autres humains. Et puis, et la détermination, clairement, le mental. Le mental, tu sais, on m'a toujours dit au judo, relève-toi, sois le meilleur. Mm. Bah, c'était ce que j'avais prévu de faire, quoi.
Ouais, ça t'a forgé, en fait.
Et je me suis dit, non, mais moi, leur science, leur machin, je m'en fiche. Je veux y arriver, et j'y arriverai.
Et t'as réussi.
Et j'ai réussi. Et le premier gros exploit, ça vient de me monter à la tête, là, comme ça. C'est qu'avec mon meilleur ami, on décide de faire une rando. Et en fait, là, on fait une rando de ouf, qui était prévue sur 3 jours. On l'a fait en 2 jours. Le premier jour, on fait un truc où on monte 1500 mètres de dénivelé. Je ne sais pas si tu fais un peu de rando, mais c'est énorme. En 3 heures.
Oui, c'est fou.
On était des fous. Et je suis arrivé au sommet à quasiment 3000 mètres de dénivelé, de 3000 mètres d'altitude, les larmes aux yeux. Je dis, en fait, ils m'ont dit n'importe quoi. Je suis normal.
Bah oui. Ouais. Et du coup, après, ça a été quoi? Donc, heureusement, tu avais les études.
Ouais. Alors, j'ai repris les études. Enfin, pendant le centre de rééducation, du coup, j'ai validé mon année d'école de commerce quand même.
OK.
Parce que ça me faisait du bien de faire autre chose aussi. Donc, le soir, quand je rentrais, je le faisais. L'école m'a vachement accompagné là-dessus, heureusement d'ailleurs. Parce que du coup, j'ai dû passer d'un cursus sportif de niveau. Donc, je te disais, la licence en 4 ans, mais du coup, en cursus normal, les licences en 3 ans. J'ai fait ma 2e année, ça s'est super bien passé. Et en fait, je me suis plongé à fond dans les études et je me suis très vite ennuyé.
Ah ouais?
Genre, ce que j'apprenais, ça me suffisait pas. Et du coup, je suis parti faire une fac d'économie. Je suis rentré à la Sorbonne. Et puis, j'ai continué à faire ça. Et pareil, à un moment donné, je me suis ennuyé. Et à côté, j'avais fait un peu de restauration. Un été, pour une bêtise, j'avais été suspendu au judo. Et du coup, mon père m'a dit « Non, mais tu vas pas rester l'été à rien faire. » J'avais fait de la restauration, tu sais, comme les jeunes...
Ouais, job d'été, comme
petit
ça.
Petit job d'été, j'avais 16 ans, comme ça, 16-17 ans. Et du coup, je fais de la restauration pour gagner un peu ma vie et tout ça, parce que il n'y avait plus le judo. Donc même si c'était un maigre salaire, c'était un salaire quand même.
Mm-hmm.
Et je suis pris de passion. Et là, donc je suis serveur. Et puis à la fin de la saison, on m'appelle et on me dit... Donc il y avait la rentrée en septembre pour la fac d'éco. Et on m'appelle et on me dit, est-ce que tu veux prendre un poste de responsable, ça t'intéresse ou pas? Et là, j'ai tout claqué, j'ai dit, vas-y, j'y vais.
Ah purée, t'as même pas hésité?
Si, j'ai un peu hésité à ce moment-là. Ma famille, ils me disaient, mais t'es fou. T'es complètement fou, tu vas pas être serveur. Quoi, c'est un peu dénigré, ce métier. Oui. Tu vas pas être serveur alors que t'es à la Sorbonne. Mm. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Mon père m'a négocié des stages de fou et tout. Donc, il m'a dit, mais t'es dingue. Mm. Je dis, ouais, mais c'est ce que je veux faire. Et donc, je l'ai fait.
Et, ça, et c'est justement, être serveur, c'est un métier où bah, tu marches beaucoup. C'est quand même physique, quoi. Ça t'a pas posé de problème, sachant que t'as vu l'accident avant?
Alors si, j'ai eu des douleurs aux pieds. Mais surtout, la plus grosse séquelle qu'il y ait eu, c'était c'est mon rachis cervical. Alors, c'est un peu au niveau du cou, à l'arrière du cou, là, dans la nuque. En fait, il y a un os qui est complètement décalé. Okay. Et qui vient appuyer sur mon influx sanguin au niveau du cerveau. Et donc, des fois, mon cerveau est mal irrigué. Ce qui fait que j'ai des migraines de dingue.
Okay.
Et quand je marche beaucoup, quand c'est des gros services, des gros machins, ça tire, le muscle, il tire dessus et ça me fait super mal à la tête.
Ouais, donc
il voilà. Y a quelques séquelles, ouais. Mais qui sont supportables,
oui.
Et qui m'ont jamais empêché de faire mon métier. Quoi.
Ok, donc là, tu te lances là-dedans. Donc, tu es responsable, c'est ça?
En fait, ouais, il me file le poste de manager dans ce restaurant, le directeur. Et puis, je fais mon petit truc. J'avance. Et puis, il y a un autre de mes patrons qui vient me chercher, qui me dit, écoute, je t'ai vu bosser. Est-ce que ça t'intéresse de bosser pour moi? Je suis OK, mais moi, je suis bien ici et tout. Il me dit, bah, moi, ce que je te propose, c'est de prendre la direction adjointe de mon restaurant. Donc là, je dis, ah ouais, quand même, stylé. Et donc, j'ai fait un an en tant que manager dans le premier restaurant. Et donc, je vais là-bas. Et j'arrive là-bas. Et alors, signe du destin ou pas, j'en sais rien. Mais au bout de 9 jours où je suis arrivé, le directeur se fait embarquer pour trafic de stup.
Ah, oh, purée.
Mais truc de fou, hein. Là-bas, qui débarque au resto, il l'embarque, perquise dans le restaurant.
C'était
assez chaud. Et du coup, bah, je me retrouve là et bah, je prends les rênes plus ou moins du resto, parce que
j'étais là
depuis 9 jours, mais du coup, j'ai travaillé d'arrache-pied. Et ils ont fini par me filer du coup, la direction du restaurant, puisque bah, il n'y avait plus de directeur que je tenais la route.
Ah, purée, trop bien.
Et donc voilà, et donc, je fais mes preuves là-bas. Et en fait, ce patron en avait plusieurs. Dont sa plus grosse affaire. Et en fait, son directeur historique ouvrait sa propre affaire. Et donc, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre la direction de ma plus grosse affaire?
Incroyable. Il t'a dit oui.
Ah ben, je suis un peu opportuniste.
Tu t'es dit non, j'aime bien.
Voilà. Et puis à ce moment-là, je me disais, bah, en fait, c'est trop bien parce que, tu sais, il y avait ce côté aussi un peu revanchard sur ma famille qui avait un peu décrié le fait que je quitte la fac pour faire de la restauration. J'allais leur dire, bah... Tu vois, j'ai bien fait en vrai.
Ouais.
Donc, j'aurais même pas eu mon master, que je suis déjà directeur d'une affaire.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça allait vite en vrai.
Ouais, ça allait très vite. Ça s'est fait en l'espace de 3 ans, un truc comme ça. Donc, ça allait vite. Après, je suis un bosseur de dingue. Hein. Je veux dire, tout ce que j'ai appris dans le judo, la pugnacité, le côté vas-y, travaille plus que les autres, sois meilleur que les autres, je l'ai retranscrit dans la rééducation pour le pied, puis dans ma carrière après derrière.
Ouais, c'est fou. C'est... Ça t'a aussi. Ça t'a tout apporté en vrai aussi,
en
le
fait,
judo.
Ah, le judo, c'est la composition de ce que je suis aujourd'hui, ouais, c'est clair. Et puis avec ma femme, à un moment donné, on se dit, écoute, on a envie de quitter Paris. Où est-ce qu'on va? Et puis, on visite des régions. Moi, je suis du sud de la France de base, donc on se dit, bah tiens, on retourne dans le sud. Et en fait, on fait des week-ends à Bordeaux. On se dit, ouais, mais c'est trop bien Bordeaux. Et on va à Bordeaux. Et là, bah, du coup, je postule pour ouvrir un restaurant, pour une marque. Un restaurant, donc j'ouvre un de leurs restaurants pour la succursale. Et au bout d'un an, il y a un franchisé de cette marque-là qui ouvre dans Bordeaux Centre, une énorme affaire, qui vient me chercher, qui me dit « Est-ce que tu veux être mon directeur associé? On y va. » Je dis « Bah, carrément. Vas-y, on fonce. » Et là, du coup, je suis à la tête d'un restaurant avec 60 salariés. On fait des chiffres de dingue. On fait plus de 1000 couverts par jour. Et c'est juste dingue d'en être arrivé là, alors que c'était pas du tout prévu.
Bah ouais, mais et t'as aussi tout fait tout seul, quoi. Enfin, t'es,
ouais.
C'est vraiment ton mental qui t'a mené partout. Tu t'aurais pu rester tranquille dans les études et voilà. Et
ouais,
au final, même si tu fais plus du judo physiquement, c'est toujours là dans ta tête et ça t'a vraiment donné la force mentale d'y arriver, quoi.
C'est ça. Et puis ce côté aussi, bah tu te débrouilles.
Ouais.
Aujourd'hui, je suis plus. Enfin, moi, j'ai appris à porter des assiettes, quoi.
Oui, t'avais.
Là aujourd'hui, je gère une entreprise de 60 salariés, quoi.
Oui, c'est sûr.
C'est voilà. Donc j'ai tout appris aussi sur le tas. Et ce côté, ouais, faut rien lâcher, c'est clairement le judo. C'est clairement le judo. Et puis aussi, ce côté, j'ai réalisé des choses, c'est l'accident. Enfin, moi, cet accident, il a changé ma vie. Au départ, je pensais en drame, mais en réalité, c'est que du positif. Et s'il fallait refaire, je ne sais pas que je me foutrais en l'air. mais ouais, je referais le même parcours.
Ouais, ça fait partie de toi, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est trop bien.
Après le judo, j'ai essayé d'y revenir un petit peu.
Ah ouais, t'as...
Quand j'ai commencé à remarcher et je faisais de la restauration, j'ai dit, tiens, je vais peut-être refaire un peu de judo et tout ça. Et puis, j'y suis allé dans des clubs un peu loisirs, tu vois, parce que j'ai dit, par contre, je refais du judo, mais tranquille. Et en fait, l'appel de la performance et de la compétition, c'était toujours trop fort. Et du coup, bah, j'ai même failli carrément me réathlétiser et repartir dans une carrière de judo à une époque. J'avais fait même les championnats de France par équipe, parce que le club où j'étais, il manquait d'un 73. Tombait bien, j'étais en moins de 73. Et on avait fait les championnats de France par équipe. Alors moi, j'avais kiffé. Je retournais à l'Institut National du Judo pour faire les championnats de France. Je retrouvais cette ambiance. Mm. Bon, manque de peau, ce jour-là, moi, je gagne mes combats, mais pas mes copains d'équipe. Oh, donc, du coup, on passe pas beaucoup de tours. Et après, j'ai dit, mais en fait, non, je veux plus de cette vie-là. J'ai refait une compétition derrière. Il a fallu refaire un régime. Sauf que je travaillais à côté. Mm. J'ai dit, mais... Non, ça y est, c'est fini cette vie-là.
Si c'est arrivé, c'est pour une raison.
Et là, j'ai définitivement tourné le judo. Mais j'ai essayé d'y revenir.
Bah oui, bah, je pense que c'est normal aussi. Quoi. Ouais. Ça fait partie de toi. Quoi.
Et ce club-là, d'ailleurs, j'avais eu des rendez-vous avec un coach. On avait commencé à parler de contrat. On avait commencé. Comme on s'était vu, je me souviens, dans un restaurant. Et on avait dit voilà, il y a un truc à faire. On va te réathlétiser. On va t'accompagner. Et puis je dis non, c'est bon, stop. Mm. Donc, voilà, j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là grâce au judo, en vrai.
Ouais, c'est ouf, en tout cas, histoire incroyable. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour les personnes qui nous écoutent, qui perdent un peu espoir, peu importe pour quelle raison, et qui voilà, peut-être se retrouvent dans ce que tu dis?
Moi, j'ai une phrase qu'il faut avoir en tête, je pense. C'est que le confort, c'est l'ennemi de la performance.
J'avoue, j'avais jamais entendu cette phrase.
Ouais, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis que je suis gamin. Et c'est vrai. C'est que si tu sors pas de ta zone de confort, si t'essayes pas d'aller au-delà de la difficulté, au-delà de la douleur, des fois la douleur ça t'arrête, tu te dis non, j'ai mal, j'arrête. Alors après, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein, attention. mais ce que je veux dire, c'est que si tu t'arrêtes à la moindre petite barrière, tu vas jamais où tu veux aller. Voilà. Et après, effectivement, il faut un objectif. Mais si cet objectif, il doit changer, bah, c'est pas grave. Vas-y, change d'objectif, retrouve-en un et fonce. Parce qu'il n'y a que ça qui t'entraîne dans la vie. C'est de sortir de ta zone de confort, d'aller chercher autre chose, d'être toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et de meilleur. Bon, moi, c'est surtout ça qui m'a propulsé vers là où j'en suis aujourd'hui. C'est de me dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, qu'importe ce qui arrive, que je connaisse ou je ne connaisse pas, je vais réussir parce que je vais apprendre, je vais m'adapter et je vais trouver la solution. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas dans mon restaurant à Bordeaux, tu leur dis le confort et ils te disent l'ennemi de la performance, tous.
Tu l'as pas écrit sur les murs et tout. Ok, non, bah, c'est un très beau message pour finir ce podcast en tout cas. Maintenant, je vais mettre ça en caption de mes photos Instagram. J'ai ça, le confort et l'ennemi de la performance.
Mais petite anecdote quand même, c'est qu'au Pôle Espoir, mon entraîneur, il était Barjolo. Il criait sur les murs, la douleur est un état d'esprit.
Ok.
Ça, c'est resté aussi. Mais c'est un peu plus dur, je trouve, comme phrase. Mais il écrivait ça sur les murs, donc tu vois.
Ah ouais, c'est drôle. Non, ouais. Bah, trop bien. Trop cool. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir écouté Jules raconter son histoire. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. On sort un nouvel épisode de podcast toutes les semaines, donc à mardi prochain. Cordialement, Zoé.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.